Salut à tous, salut à toutes et bienvenue dans To Beatles or Not To Be, une émission sur les Beatles mais sans les Beatles. On est ensemble pour écouter les Beatles autrement en explorant l'univers étendu des quatre fantastiques de Liverpool. Doc Robert ici pour vous accueillir, je vois que vous avez votre ticket et même un gros pot de pop-corn, c'est parfait, prenez place, choisissez la rangée qui vous convient le mieux, installez-vous confortablement dans ces sièges 100% moelleux, attention, les lumières vont s'éteindre, la projection va commencer, bon visionnage de la dernière super production des Liverpool Studios.
Thank you.
Et voilà une ambiance symphonique parfaite pour un grand film d'aventure. Un grand film d'aventure qui pourrait s'appeler, eh bien, Two Beatles or Not To Be, par exemple, dans lequel on redécouvrirait les Fab Four sans rien écouter de leurs morceaux officiels. C'est ainsi que le générique d'intro que l'on vient d'entendre était un réarrangement de Get Back par le London Symphony Orchestra. Dans notre long métrage d'aventure, il y aurait évidemment quatre héros, John, Paul, George et Ringo, qui chercheraient à accomplir une mission, à savoir prendre plaisir à faire de la musique, plein de musique, ensemble pour le plus grand bonheur de leur public. Et comme tout héros, ils seraient initiés par un mentor, un vieux sage, dont le rôle consisterait à leur mettre le pied à l'étrier, à leur donner confiance en eux quant à la légitimité de leur quête. Début 1963, les Beatles sont un tout jeune groupe qui cherche à se faire connaître au-delà de Liverpool, et leur idée pour cela est qu'un musicien connu reprenne une de leurs chansons et lui donne, et donc leur donne, une plus grande visibilité. Début 1963, donc, les Fab Four repèrent la chanteuse Hélène Shapiro, très populaire à cette époque, et tentent tant bien que mal de lui offrir une de leurs toutes premières compositions, mais en vain. Un autre musicien, lui aussi assez célèbre à ce moment-là, avant de l'affaire et vient à leur rescousse. Il s'agit de Kenny Lynch, un chanteur pop-rock londonien qui a déjà l'expérience de grands succès dans le hit-parade britannique. Voici le mentor de nos héros. Kenny Lynch publie la toute première reprise des Beatles jamais enregistrée, Misery.
You've been treating me bad. Misery. I'm the kind of guy who never used to cry, but now you're treating me bad. Misery. I've lost you now, I'm sure. I won't see you no more. It's gonna be a drag. I remember all the little things we've done. You'll remember and you'll be the lonely one, lonely one. Please come back to me, 'cause everyone can see, without you I will be in misery.
Première fois que le public peut entendre une reprise des Beatles, c'était celle-ci, Misery, la deuxième plage du premier album des quatre de Liverpool, reprise par Kenny Lynch. Et comme tout vieux sage de film d'aventure, ce dernier reste dans l'ombre et les élèves finissent forcément par dépasser le maître. Kenny Lynch est un nom que le grand public a oublié aujourd'hui, contrairement à celui des Beatles. Les Fab Four deviennent ensuite tellement célèbres que les autres artistes reprennent leurs chansons non plus pour les aider, mais cette fois-ci pour lancer leur propre carrière. Un exemple emblématique est celui de Joe Cocker, qui atteint une renommée mondiale grâce à sa réinterprétation de With a Little Help from My Friends, notamment au festival de Woodstock en 1969. Mais ce que l'on sait moins, c'est que quelques années plus tôt, le chanteur anglais avait déjà choisi une chanson des Beatles pour tenter de lancer sa carrière discographique une première fois avec moins de succès. Et oui, ça marche pas forcément du premier coup. Le premier disque que publie Joe Cocker est un single et c'est une reprise des Fab Four.
I just lost the only girl I've had. If I could so I cry instead. I got a chip on my shoulder that's bigger than my feet. I can't talk to people that I meet. If I could see you now, I'd try to make you sad somehow, but I can't, so I cry instead. Don't wanna cry when there's people there. I get shy when I stop and stare. I'm gonna have myself to wait here, but I'll come back again someday. I'm gonna do you better, hide all the girls, 'cause I'm gonna break the hearts all around the world. Yes, I'm gonna break them in two. I'll show you what a loving man can do. Till then, I'll cry instead. Don't wanna cry when there's people there. I get shy when I stop and stare. I'm gonna have myself to wait.
La reprise de I'll Cry Instead par Joe Cocker en 1964, un single qui fait un flop, et vous avez pourtant pu y entendre la guitare de Jimmy Page, qui deviendra plus tard le fondateur de Led Zeppelin. Toutefois, comme on l'a dit, Joe Cocker connaîtra le succès quelques années plus tard grâce à une autre reprise des Beatles, Tout est bien qui finit bien. Mais ce n'est pas toujours le cas. Les échecs définitifs peuvent se produire. Examinons le dossier Tommy Quickly. En 1963, Tommy Quickly, qui ne s'appelle pas encore Tommy Quickly, mais toujours Tommy Quigley de son vrai nom, a 18 ans. Il chante à Liverpool au sein d'un groupe nommé les Challengers. Il se trouve qu'un jour, Tommy Quigley et ses Challengers donnent un concert auquel assiste Brian Epstein, le manager des Beatles. Epstein trouve que Tommy se débrouille plutôt bien et décide de l'inclure à la petite écurie de musiciens qu'il est en train de se constituer et dont les Fab Four sont évidemment la figure de proue. À partir de ce moment-là, Tommy, qui a bien sûr donné son accord pour être managé par le même monsieur que celui des Beatles, Tommy n'a finalement plus le choix de grand-chose. Déjà, Brian Epstein trouve que son groupe, les Challengers, ne vaut rien et le fait rompre avec eux. Le manager pioche un autre ensemble pop-rock qui vient de signer avec lui, les Remo Four, et les désigne comme accompagnement de Tommy. Ensuite, Epstein choisit un autre nom pour le chanteur. C'est lui qui a la lumineuse idée de changer Quigley en Quickly. Et enfin, Tommy se voit imposer le morceau qui sera son premier single. Alors que le répertoire du chanteur tend plutôt vers le R&B, Epstein insiste pour lui faire enregistrer une composition pop de ses petits favoris, Lennon et McCartney. Comme souvent dans ces cas-là, il farfouille dans le carton des chansons écrites par les Beatles mais abandonnées et en ressort Tip of My Tongue.
Speak to you. It sometimes takes a week or two to think of things I want to say to you. But words just stay on the tip of my tongue. When the skies are not so blue, there's nothing left for me to do. Just think of something new to say to you. But words just stay on the tip of my tongue. Not true.